Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Et bien sûr, on va en parler ce matin comme d'habitude, comme tous les matins, quand on est à 7h45, 27 225 49 880. C'est ouvert, c'est le sujet de l'éducation nationale, des résultats de l'école qui nous intéresse ce matin, monsieur Armel Menzi.
Justement, l'éducation privée est devenue un lieu d'affaires, d'argent, où la qualité de la formation n'est plus recherchée, où les moyens se marchandent comme un outil commercial, où l'on oblige l'enseignant à gonfler les moyens pour donner une image de grandeur à son établissement. Tels sont les propos tenus par Yubo Kwaku, président du collectif Sauvons notre éducation nationale. Ce samedi 5 novembre 2022, lors d'une conférence de presse à Cocody, il faisait ainsi l'état des lieux du secteur éducation-formation du privé qui, selon lui, va de mal en pis à cause des fondateurs des établissements scolaires. Que pensez-vous de la qualité de l'enseignement dans nos écoles privées? Les moyennes, les résultats sont-ils à la hauteur justement de la qualité de l'enseignement qui est distillé? On attend vos avis au 27 225 49 880.
Voilà qui est superbement bien dit. Et comme on le dit ici assez souvent, c'est tellement bien pitché. Et donc 27 225 49 880. L'enseignement dans les écoles privées. Tantôt, c'est du 70%, c'est du 80%.
Il y a parfois même du 100%.
Du 100%. Bon, c'est pas que nous mettons en cause ces établissements ou ces écoles qui font du 100%, pourvu simplement que ce soit vrai. Mais quand ce secrétaire la monte comme ça au créneau pour dire, tiens, que tous ces chiffres-là, globalement, sont gonflés, nous, on s'interroge ce matin, très clairement, l'imbegré.
Alors, quand on prend les résultats du baccalauréat 2022, sur on a le classement de 20 écoles, voilà, les meilleures écoles, les meilleurs établissements de Côte d'Ivoire.
D'accord.
Et sur les 20, nous avons 13 privés. Dont plusieurs catholiques et quelques établissements privés.
D'accord. Voilà. Mais est-ce que là encore, on peut vraiment tricher à ce niveau-là? À ce niveau, on peut pas tricher.
Non.
C'est tellement clair.
Non,
il y a la traçabilité.
C'est pour dire que aujourd'hui, les établissements privés sont plus. Quand on regarde les résultats, c'est une façon de dire, ils sont plus conseillés.
C'est-à-dire
que pour ceux qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants,
dans une école privée. Ouais.
Voilà, il faut le faire. C'est ce que ça veut dire en fait.
C'est
les chiffres.
Tout à fait.
Ce que ça nous donne.
Oui, Armel.
Non, déjà, il faut faire la différence entre les écoles privées. École privée et école privée.
Tout à fait.
De tout le temps, on le sait, les écoles catholiques, les écoles confessionnelles étaient, je veux dire, il y a une certaine rigueur.
Un enseignement à la pointe.
À la pointe, en effet. Et tu vas voir également dans nos lycées publics, quand c'est le statut des lycées d'excellence, comme les lycées scientifiques, on a vu
le lycée scientifique,
100% au bac, 100% au BEPC.
Tout à fait.
Maintenant, il y a des écoles privées que moi j'appelle les écoles privées boutiques, qui publient en tout cas à Abidjan actuellement.
Ok.
Et c'est vrai. On gonfle les notes des enfants. Parce que, en réalité, il faut avoir plus d'orienté. Pour orienter les gens, il faut que tu dises que. Il faut créer des facilités aussi au niveau des élèves.
Faut qu'on dise que, tiens, notre école est une école d'excellence. L'enseignement qui est donné est un enseignement de pointe pour les apprenants.
Moi, j'ai mon oncle qui est informaticien dans une école privée. Informaticien, donc je vis ça au quotidien.
Ok.
Et très souvent, le directeur vient le voir pour dire non. Il faut, souvent les années sont à 7 de moyenne, à 6 de moyenne, on les ramène jusqu'à 10 de moyenne pour pouvoir aller les amener avec une chance.
Pour qu'il y ait moins de recalés en fait.
Recalés et moins de. Pour qu'on puisse les repêcher par exemple au bac ou au BEPC.
Donc ça dit que, en conclusion, les écoles privées, puisqu'elles sont privées, normalement ils ont aussi, peut-être moins, le droit de faire aussi du marketing.
Justement, en passant par
là, parce qu'on a, vu un peu, mais moi ça me choque quand on voit les écoles comme les écoles établissements catholiques, méthodistes, qui soient, pour nous c'est quand même des chrétiens, se mettre dans cette situation-là, je me dis, pour l'argent, on y va à fond.
Non, c'est pas
mais
bon.
Après aussi, ces enfants deviennent quoi? Si on doit les aider à tricher pour évoluer, c'est compliqué après le côté intellectuel dont on parlait tout à l'heure pour les enfants.
Il y a le
caractère pécunier de cette histoire. C'est-à-dire, le fondateur, donc déjà, la première question qu'on se pose, est-ce que le fondateur de l'établissement lui-même, il est dans l'enseignement?
S'il n'est pas dans l'enseignement.
Non, c'est ça, c'est ce que je pense d'abord. S'il n'est pas dans l'enseignement, il y a le côté business qui intervient. Donc quand on parle de business, il y a argent. Alors que pour avoir beaucoup d'entrées financières, il lui faut beaucoup d'inscrits.
Pour vendre le produit.
Voilà, donc quand on peut avoir plus d'inscrits, ben évidemment qu'on va gonfler les moyennes.
C'est-à-dire qu'une école, il n'y a jamais d'échec. Il faut quand même arriver à un moment.
Là-dessus, qu'on le veuille ou pas, c'est du business en tout cas. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit soi-même dans l'enseignement ou qu'on soit un homme d'affaires. Parce que dès lors que c'est privé, forcément c'est du business. Déjà même qu'au public, on fait du business sur quelques petites ventes parallèles, etc. Voilà. Donc le monsieur, il fait son business tranquillement et on ne fait pas un business pour que ce soit à perte.
Soyez clair.
Donc, le truc, c'est que qu'il veuille faire, bien évidemment, du marketing, déjà pour bien présenter son école, je veux dire, en termes de bâtiment, etc., etc., c'est de bonne guerre, en tout cas pour lui. Et aussi, là, maintenant où ça craint, il faut que les résultats, justement, soient réels. Il faut que les résultats soient des résultats effectifs, en fait, qui ne puissent pas gonfler. C'est quand ils gonflent que ça devient problématique. C'est là...
Oui, mais non. Quand ils gonflent, tu dis que ça devient problématique. C'est l'objectif, ce n'est pas que... Peut-être que pour moi, d'abord, il y a l'enseignement qu'on veut, de qualité qu'on veut donner à l'enfant. Mais le fait de se dire, attention... On veut faire de la qualité, mais il faut aussi qu'on puisse vendre l'école. Donc après, en fin de compte, mais on vend l'école et la formation dont on parle, donc qui est quand même la formation de qualité, devient carrément quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'on a la mangue, mais le noyau est pourri.
Donc la question qu'on pose aussi ce matin à Armel, est-ce qu'il y a vraiment ce souci-là d'un enseignement qui soit qualitatif, servant de base solide aux apprenants finalement, avec tout ce que nous
disons ce matin? Vous disiez un truc très très important, il s'agit de faire du business.
Ok. Vas-y. 27 225 49 880, allô, bonjour monsieur, madame.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes monsieur Quadio. Monsieur Quadio est avec nous ce matin. Ouais. Alors, monsieur Quadio, nous, on se pose une question ce matin, de laquelle nous sommes en train de discuter là maintenant. La qualité de l'enseignement dans les établissements privés non seulement, mais pour attirer, les chiffres sont gonflés. Qu'est-ce que vous en pensez ce matin, globalement?
Je me pose également des questions parce que, forcément, on a, au niveau des examens nationaux, on a les résultats
bien
de
sûr.
Différents établissements. Et donc, si les notes sont gonflées superficiellement au cours de l'année, forcément, au cours des examens nationaux, on aura des résultats véritables de ces établissements-là.
Tout à fait.
Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc, voilà. On comprend, vous comprenez absolument.
Je me demande bien, c'est à quel niveau, c'est dans les classes intermédiaires que les résultats sont gonflés, ou c'est... Je veux dire, lors des examens nationaux. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une filière, je veux dire, de tricherie qui est installée et qui est ancrée. Si vraiment ils sont dans cette, façon de faire, et ça m'étonnerait que ce soit le cas, vraiment. Et s'il y a cette manie-là, je pense plutôt que c'est au niveau des écoles purement privées, par rapport aux écoles confessionnelles, des écoles catholiques, je peux dire que ce n'est pas juste. Je peux témoigner de cela.
Ce que nous sommes en train de dire, mon cher Quadio, nous ne pointons pas du doigt l'enseignement confessionnel privé de Côte d'Ivoire. Non, mais c'est l'ensemble.
Je veux dire,
de la corporation.
On peut tout dire, mais bon, on peut valablement mettre les écoles confessionnelles de côté.
Ok. En tout cas,
c'est eux qui ont fait les 100% en majorité.
Ils ont été honnêtes. Oui, 100% à l'examen, c'est tout à fait. Je veux dire, c'est un peu normal même, parce que vu la rigueur qui est installée dans ces écoles-là, vraiment, je peux vous dire, j'ai mon enfant qui est, mon exemple, carrément, on vous dit à la rentrée carrément que nous, c'est du 100% qu'on veut faire. On n'est pas là pour... Voilà. Donc, dès le départ, c'est sans tricherie. Et les parents sont prévenus. Il y a une discussion dehors, je vous dis.
Si vous avez suivi, monsieur Quadio, on a dit la même chose tout à l'heure relativement à l'enseignement privé confessionnel. On se dit que au niveau de l'examen du BEPC, du bac et de tout ça, on ne peut pas tricher. Donc quand ça sort là-dessus, c'est clair. Mais bon, on se dit qu'il y a des écoles aussi, puisqu'on n'a pas forcément un outil pour vérifier, pour attester des chiffres qu'on donne. Donc du coup, on peut aussi mettre en doute cela. Voilà ce que nous disons ce matin.
Mais bon, moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il s'arrange pour ces écoles privées-là, pour pouvoir avoir
Monsieur Quadio, je peux vous donner un exemple en tant qu'un businessman. C'est-à-dire que je peux dire à l'État, cette fois-ci-là, le BPC, au lieu de 150 points, puisque je sais que dans mon école, la majorité a eu 120, mais qu'on fixe à 115. Non, si non, on fait un 115, eh bien tout le monde arrive sur BPC chez moi.
On est bien obligé, monsieur Quadio, de prendre d'autres personnes, mais soyez à l'écoute en tout cas. Ce que vous dites, nous le disons aussi ce matin. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trop polémiquer qui sont assez claires. 27 225 49 880. Allô, bonjour, monsieur, madame.
Oui, bonjour, monsieur Gogo.
Monsieur Gogo Julien est avec nous ce matin. Allons-y, mon cher Gogo Julien. Julien, pardon.
Je viens vers le sujet. Alors, monsieur Quadio, je ne suis pas d'accord avec lui. Okay. Mais comment il s'arrange? Alors, j'explique comment les gens s'arrangent. À l'examen, pour faire le 100%, en quel temps dans le monde des classes de enfants. Dans le monde des classes agit dans ce qu'on va donner comme résultat final à l'examen, parce que c'est le monde pondéré qu'on calcule.
C'est ça.
Donc, certaines écoles privées s'arrangent.
Il fait la nuance très rapidement, monsieur Gogo. Il fait la nuance, justement, pour les examens, par exemple, pour le bac et consort. Ben, là-bas, on ne peut pas tricher, en fait. C'est la traçabilité est là, c'est clair. C'est ce qu'il veut mentionner, en fait, monsieur.
Allez-y. Que la façon à repêcher, au bas, mais pour être repêché, on tient compte de la moindre des classes.
Tout à fait.
La moindre des classes est faite par des professeurs. Donc, il y a les écoles privées qui font les bulletins des enfants avec la moindre des classes. Ils s'arrangent pour faire les bulletins. À la fin de l'année, ils font les bulletins des enfants pour qu'ils aient bonne moyenne pondérée. Les études de décision d'être réussies. Parce que vous voulez le rappeler à M. Quadio, c'est lié à la foi, c'est lié aussi au statut de l'école. Mais les gens le font parce que quand l'établissement est classé premier, un bon résultat, on trouve ce que c'est une maison de référence. Donc, ça marche pour cette école. Et c'est une mauvaise pratique qu'il faut bannir. C'est pas maintenant qu'elle existe. Pour lutter contre ça, c'est assez facile. Si on peut arriver à payer les trains par transfert, pourquoi ne pas faire des notes directement quand on se décompose, on a une base de données où les notes sont stockées. L'école fournit les notes elle-même de façon manuelle. Donc tout ce qui est fourni manuellement est sujet à manipulation et ça s'est fait.
En même temps, pour justement faire le contrepoids de ça, mon très cher monsieur Julien Gogo, aujourd'hui tout est informatisé de façon manuelle. Ça devient vraiment tellement compliqué. On ne va pas croiser les données des écoles de façon manuelle, ça devient compliqué tout ça.
Donc, état informatisé, je ne vais même plus attendre les écoles finissent les trucs. Dès que la fin du syllabe finit de composer, on a entendu la note, elle est au ministère. Je veux dire que les notes sont données par les écoles. Donc, l'ordinateur, c'est l'informatisé de l'école qui est assis dessus, qui vient avec les notes des professeurs pour introduire. Donc, il s'arrange pour donner le moins pondéré aux enfants pour qu'il y ait beaucoup plus de chances d'être admis, pour qu'on dise leur école est excellente et que c'est une bonne école privée. Voilà, et voilà comment ça marche.
D'accord.
Et ce n'est pas lié à la profession, ce n'est pas lié aussi au statut de l'école, mais c'est un business quand c'est bien référencé. On y paye l'école et tout le monde y va pour amener son enfant pour payer cher.
D'accord. Merci, mon cher Gogo, comme d'habitude, pour ces interventions très, très pointues. Voilà, ce matin, nous parlons de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire et cette sortie-là du secrétaire général, Armel
Yoboué.
Armel Mendy, justement, va nous rappeler. Mendy, Armel est-il là ce matin avec nous?
Il est là, bien levé, à la vitrée.
Où est-il en train de vaquer à toute
occupation? Non, il faut le dire clairement, dans les écoles privées, il y a le cadre également. Moi, je pense que l'État doit jouer son rôle. L'école comme la santé, pour moi, ne doit pas être un business.
Ok.
C'est vrai, ça peut être une activité génératrice de revenus, mais il faut... À la base, il faut bien suivre cette éducation-là. Parce qu'on ne peut pas fonder le développement se fonde sur l'éducation. C'est la qualité des hommes qu'on va produire aujourd'hui qui va faire la Côte d'Ivoire de demain. Donc, il faut avoir un œil là-dessus. Dans les écoles privées, les professeurs sont payés à combien?
Justement.
Quand un professeur est payé à 500 francs l'heure, vous voulez qu'il donne quelle éducation à un enfant?
On retrouve souvent, des professeurs qui sont au public. Ils vont faire leur combo au privé. Et au privé, là-bas où il va faire son combo, les élèves ont leur moyenne. Et là où il travaille au public, les élèves n'ont pas de moyenne.
Là, il y a de la
Armel Mendy a souligné un point, je vais préciser déjà. Au niveau de l'enseignement primaire, les salaires en général au privé varient entre 40 et 50 000. Au niveau du lycée, c'est 80 000 francs.
Ok, d'accord. Merci. On va revenir justement sur ce sujet-là. Mais bon, il faut bien, évidemment... que nous puissions avancer dans notre émission. Ça me rappelle quelque chose. En tout cas, à chaque fois, on me reprochait de
avançons,
dire.
Avançons,
les
amis.
On me reprochait de dire, ouais, avançons. Que voulez-vous? Voilà. Donc, ce matin, nous parlions, bien évidemment, de l'enseignement privé.
Normal, pas normal. Et si on en parlait? Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Eh bien, nous allons en parler ce matin, très clairement. Voilà, et nous recevons Monsieur Yafin Koné, expert en boulangerie au sein de Côte d'Ivoire Normalisation Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur, bienvenue.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin ?
Dieu fait grâce.
Amen. Enfin, nous nous retrouvons après un ou deux repas et ça fait en tout cas plaisir de vous avoir. Trois catégories de pains sont répertoriées désormais. Il s'agit de pains courants, de pains spéciaux et puis de pains composés. Quelles en sont justement les particularités ?
La particularité, c'est que on a le pain courant qui est composé que de farine de blé.
D'accord.
Avec les ingrédients traditionnels.
Ok.
Et son lot, à la levure et la mûlure. Maintenant, le pain complet, c'est le pain qui est fait avec la farine complète.
D'accord.
La farine complète, c'est la farine qui contient des fibres. Voilà. Maintenant, les pains spéciaux, ce sont des pains qui, au-delà des intrants traditionnels, on y ajoute des ingrédients supplémentaires.
D'accord.
Voilà, tels que le lait, le sucre, voilà, et d'autres choses. Voilà.
D'accord.
Et là, on sort des pains spéciaux.
C'est intéressant tout ça. Alors, ces pains-là, sont-ils disponibles dans les boulangeries? Et surtout, à quel prix? C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir aussi.
Oh, ça dépend. Et quand vous parlez de quel prix, les pains courants, ce sont ces pains-là qui ont des prix qui sont discutés avec l'État des Côte d'Ivoire. Concernant les pains spéciaux et les pains complets, ça, c'est à l'appréciation de l'artisan.
OK.
Voilà.
Donc c'est lui qui fixe, en fait.
C'est lui qui fixe les prix.
Qui fixe les prix.
Voilà.
D'accord.
En fonction de tout ce qu'il y a mis. Voilà.
Bon, êtes-vous, en tout cas, pour cette question que je vais vous poser, l'interlocuteur qu'il faut ou pas, cela va dépendre, bien évidemment, de l'appréciation de chacun et de vous-même, votre appréciation. Pourquoi seulement maintenant l'État de Côte d'Ivoire fait la promotion des produits locaux, alors que depuis, il y a la vie chère, on parlait de la vie chère et tout, et au Burkina, à un moment donné, dans certains pays de la sous-région, ils ont trouvé justement ce palliatif-là de mettre en avant les produits locaux pour certainement avoir un coût un peu plus bas au niveau des prix.
C'est pas maintenant que l'État a fait la promotion de l'incorporation des farines locales dans la panification.
Mais pas de façon officielle comme ça. C'est moi, en tout cas, à mon sens, c'est la première fois que j'entends clairement, à l'issue d'un conseil du ministre, dire comme ça.
Non, c'est maintenant que certainement qu'il y a un tapage médiatique là-dessus.
Ok.
Sinon, c'est un projet qui est là il y a longtemps. Et c'est un projet qui a été suscité par la Banque mondiale à l'époque, dans un projet qu'on appelait le PPWAP.
Ok.
Qui a pris en compte un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, il y en a qui ont continué la politique. Et ici, bon, peut-être que c'est un peu ralenti, compte tenu même des consommateurs ivoiriens. Voilà, parce que je pense que nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous ne valorisons pas véritablement la chance que nous avons d'avoir tous ces produits locaux-là. Parce que toutes les farines que nous essayons aujourd'hui de vulgariser, nous, en Côte d'Ivoire, on a la chance de pouvoir tous les avoir. On a la chance de pouvoir tous les avoir s'il y a une véritable politique agroalimentaire qui est menée. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites, par exemple, de remplacer de la farine de blé à une certaine proportion avec la farine
de manioc.
Avec la farine de manioc, la farine de banane ou encore même la farine de
maïs et de sorgho.
De maïs ou de sorgho. Mais faudrait encore que j'en dispose dans une proportion raisonnable. On n'en a même pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que la farine de manioc est plus chère que la farine de blé.
Ah bon? Ben nous qui avons cru que c'était le contraire.
Aujourd'hui, la farine de manioc est plus chère que la farine de blé. Dans l'état actuel. Je pense que s'il y a une véritable politique qui est menée en vue de dynamiser la culture même de la farine du manioc et de vulgariser, d'inciter les industriels à transformer cette racine-là, nous allons pouvoir peut-être ajuster.
Ok.
Voilà. Parce que moins il y en a, plus ça coûte cher. C'est la loi de l'offre
et de la demande.
La demande. Wow. On n'en a pas beaucoup. Mmh. Et quand on parle des farines de manioc, ce n'est pas toutes les espèces de manioc qu'on peut transformer pour la panification.
Ok, il y a des espèces bien précises.
Il y a,
espèces,
y a le socro, il y a le bonnois. Ouais.
On a l'espèce qu'on appelle le manioc doux. Mmh. Voilà, c'est celui-là qu'on transforme et qu'on on essaie d'incorporer pour faire du pain composé.
Eh bien.
Voilà. Le maïs, bon, toutes les espèces de maïs,
non pas plus.
De problème.
Donc aujourd'hui, notre production de manioc, de maïs et consorts, en fait, ça ne couvre pas le besoin globalement des Ivoiriens aujourd'hui. Non. Si on veut abonder dans le sens que vous dites là.
Non, sinon la ticket, ce n'est pas cher.
Ah ouais.
Et donc, bon, c'est au niveau de la productivité qu'il y a problème.
Il y a un véritable problème de production.
Mm-hmm. D'accord. Alors.
Vous avez un peu d'eau, hein.
Voilà, ouais. C'est la farine de blé là qui fait ça.
Alors, tout à l'heure, M. Koné disait que la farine de blé est beaucoup plus moins chère aujourd'hui que celle du manioc. Mm. C'est ça.
Oui.
Alors qu'on parle de pénurie à cause de la crise en Ukraine en matière de blé, est-ce que cela, normalement, devrait avoir un impact sur les prix ici?
Bien sûr, madame.
Rapprochez-vous.
Y a un impact sur les prix. Et cet impact-là a été refroidi par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y a une subvention que l'État de Côte d'Ivoire paye aux meuniers pour ne pas augmenter la farine. Mmh. Ah. Parce que la farine des blés, aujourd'hui, elle a 21 000 francs sortis des moulins. Mmh. En 2006, elle était...
Pour le sac de combien de kilos?
Le sac des 50 kilos.
50 kilos.
Et si on avait ça en version manioc ou
En fait, André, que ma question, on n'a pas compris ma question. Hein. Mm-hmm. Je veux dire ce que je disais. Aujourd'hui, tout le monde, on pensait tout ce que le blé était. Et bon, les stocks de blé sont un peu en rupture à cause de la crise. D'où la hausse des prix pour le pain. Mm-hmm. Alors que tout à l'heure, vous avez parlé de manioc qu'on utilise pour faire le pain, alors qu'on peut en produire ici. Mm-hmm.
Bon, déjà, madame, je veux vous interpeller sur un point bien précis.
Okay. D'accord.
En 2006, nous avons déjà le pain à 150.
C'est ça.
Pour un sac de farine, il coûtait autour de 10 750 sorties moulins. Mmh. Aujourd'hui, il faut maintenir ce prix de 150 pour un sac de farine de 50 kilos qui coûte 21 000 francs sorties moulins. Mmh. Donc, s'il y a eu des tractations entre les boulangers et l'État de Côte d'Ivoire, c'est compte tenu du rapport en 2006 et aujourd'hui. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les augmentations de la farine due à la crise russo-ukrainienne.
Okay.
Voilà, c'est un peu cela. Donc aujourd'hui, à cause de la crise russo-ukrainienne, il y a une augmentation du prix du blé. Mmh. Donc l'État de Côte d'Ivoire, pour alléger, parce que déjà, pour ne pas augmenter les souffrances des boulangers et des populations, a décidé de payer une subvention aux meuniers sur l'excès qui devrait débourser pour tout ça à cause de la crise.
C'est ça.
Voilà. Donc, c'est un peu cela.
On se souvient aussi qu'il fut un moment... L'État, là-dessus, en tout cas, fait des efforts assez considérables hein, parce qu'il a exonéré de taxes, je crois, l'importation de blé à un moment.
Oui.
Et aussi, ce que vous avez avancé justement ce matin. Armel Mendy.
Moi, je pense que ces solutions-là sont des solutions à court terme. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas temps de penser à une véritable politique aujourd'hui à notre niveau en Côte d'Ivoire, avoir des matières premières locales, donc une agriculture qui est développée, et pour faire face justement à la demande, parce que c'est un marché à prendre. Moi, j'imagine, au lieu d'aller importer le blé de l'Ukraine ou de la Russie, on a des plantations de manioc ici, il suffit justement d'encourager ces planteurs-là, de les mettre en coopérative. Et vous, boulanger, vous traitez avec eux le plus simplement possible. Pourquoi ne pas penser justement cette coopération entre agriculteurs et boulangers en Côte d'Ivoire afin de développer une industrie qui est à nous?
Je pense que ça, c'est à l'État de Côte d'Ivoire.
Et à vous, qu'est-ce que c'est de le faire?
Comme vous l'avez dit, le marché potentiel, il est déjà là. Nous utilisons ici en Côte d'Ivoire entre 500 000 et 600 000 tonnes de farine par an. Maintenant, c'est 500 000 et 600 000 tonnes de farine à peu près par an. Si on incorpore pour 15%, ce qui est possible, des farines locales, je pense qu'on peut faire une diversité peut-être de trois farines locales déjà. Notamment la farine de banane, la farine de manioc et la farine de maïs. Pour 15% pour chacune de ces farines, je pense qu'on pourra réduire nos importations de blé je pense, à peu près de 45%.
Ma dernière question, est-ce qu'il y a une différence entre le pain fait à base de blé et le pain fait à base de manioc ou de maïs? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la qualité?
Bon, je vous dis tout de suite qu'il y a forcément une différence. Il y a forcément une différence. Elle peut... C'est-à-dire que cette différence-là, elle peut être qualitative ou elle peut être moins qualitative. Ça va dépendre de ce qu'on utilise.
Pour la meilleure qualité de pain, alors?
Bon, la meilleure qualité de pain, je pense que la meilleure qualité du pain, c'est le pain, ça dépend du consommateur.
Là, je vois qu'il nous a fait appeler les amis. Je vois que M. Yaffé nous a fait la langue de bois. Ou il nous a fait de la diversion ou de la digression complète, carrément. Parce que là, je sens que vous avez envie de dire que c'est le pain de blé.
Chez nous, j'ai rien fait des kilomètres pour aller chercher du pain de blé. Moi, je me pose la question.
Non, non. Comme madame l'a dit tout à l'heure, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
Ok.
Même si je pense que les goûts et les couleurs peuvent se cultiver.
Ok.
Voilà. Donc, là-dedans, ça dépend du palais de tout le monde, de chacun d'entre eux. Voilà.
Moi, j'aime le pain blanc, mais chez nous, on peut l'essayer, par exemple. Est-ce que vous pensez que si ce rhodium revient ici, on peut changer le système?
Il n'est pas à ce niveau-là. Le pain du jour. Laisse-moi se connaître.
Je pense que la question, il faut la poser à Guillaume Soro.
Bon, voilà. Il a envie de blé boudé, comme il fait le 26. Est-ce que le pain va chuter le 26 novembre?
Alors.
Blé,
le blé. Le blé, je dirais le blé, l'original blé.
Oui.
Même si c'est de la goutte, mais c'est du blé.
Tiens, du blé.
Oui.
Oui, mais c'est pas du blé pour faire du pain.
Lynn Begrayo pour M. Yaffé ce matin.
M. Koné, alors, selon vous, qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous, boulangers, et pour les consommateurs, entre la subvention de l'État à côté financier et la proposition d'Armel Mendy de subventionner, par exemple, ou même de développer le secteur agricole, pour de sorte à fournir plus de farine de manioc?
Alors, moi, en tant qu'Ivoirien, je ne préfère pas qu'on subventionne les paysans russes ou ukrainiens. Voilà. Cette subvention-là, si elle peut servir à développer une industrie agroalimentaire capable de nous fournir la matière première pour faire du pain, pour faire des biscuits, pour faire des gâteaux, pour faire des croissants, moi je dirais pas non. Voilà, parce que non seulement ça va générer des emplois, ça va relever le pouvoir d'achat des paysans, parce que aujourd'hui les paysans sont encouragés, ils sont plutôt portés vers les cultures de rente.
C'est ça.
Et vous voyez qu'en Afrique aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire.
C'est ça.
Voilà. C'est parce que là, je pense que si on sort de l'émotion, si on sort des réactions et qu'on agit véritablement, si on est véritablement dans l'action, je pense qu'on a la chance ici en Côte d'Ivoire d'avoir un tissu agro-industriel qui non seulement va générer des emplois, mais qui va résorber en grande partie le problème de la cherté de la vie.
Parfait. Bon, je veux encore revenir sur ceci. C'est vrai que moi, je suis un, comme tout bon Ivoirien, grand consommateur de pain. Et j'avoue que ma préférence se tourne directement vers le pain de blé.
Et les boulangeries étrangères?
Au niveau, non, pas forcément les boulangeries. Parce que déjà, au niveau de la texture, hein, déjà, au niveau de la conservation aussi, on se dit que, bon, enfin, moi, je constate que c'est qualitatif. Voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment l'expertise? Parce que quand je compare, évidemment, le pain de blé au pain de manioc, là, c'est le jour et la nuit complètement. Donc, je me demande, avons-nous l'expertise véritable, justement, pour tenir ce rang-là?
Je dirais oui. Nous avons une structure qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle IDT.
Okay.
Les gens ne connaissent pas véritablement. Où il y a un centre de formation aux techniques du pain composé à base de farine locale. Voilà. Nous avons des structures comme le FICA, qui développe, qui donne des formations pour que les boulangers ivoiriennes, disons les boulangers ivoiriens, s'adaptent véritablement à la fabrication des pains composés.
Okay.
Voilà. Maintenant, quand vous dites que nous n'avons pas l'expertise,
Non, je ne dis pas qu'on n'a pas l'expertise.
Il y a mal quand on dit le blé.
Est-ce qu'on a l'expertise?
Actif que le manioc, il est touché, quoi. Mmh. Il ne mangeait rien de bon depuis.
Non. Oh.
Non, je pense que l'apport des farines locales, ça réduit considérablement les impacts du gluten, par exemple. Voilà.
Il y a des gens qui sont pas
tolérants au gluten. Et puis, bon, ces farines-là sont plus riches en fibres que la farine de blé, par exemple. Donc, ça résorbe déjà le problème du transit et autres.
Voilà. Parfait.
Et puis, le problème de conservation également, il y a des produits aussi pour pouvoir, niveau du blé.
Il s'en dessus plus vite que le blé, non?
Ça, c'est non.
Clairement. Le pain Godio, chez nous, PDCI, c'est
parce que
il est vendu rapidement.
Le pain du...
Mais si on fabrique des pains ici, on fabrique notre farine, est-ce que ça va pas bouleverser l'ordre mondial? Puisque l'Ukraine est première, si on en fabrique, l'Ukraine ne pourra plus vendre, c'est comme le cacao. Si États-Unis dit, bon, nous, on fabrique nos cacao ici. Ça va bouleverser l'ordre mondial.
Mais décidément.
Bon, répondez, non, laissez le président répondre à ma question quand même.
Monsieur de Perpignan.
Voilà.
Ça ne va pas bouleverser l'ordre mondial. C'est pas possible.
Ok.
Donc, je pense qu'au contraire, si on développe un tissu agro-industriel ici efficace, qui transforme déjà tout ce que nous avons comme produits locaux. Nous avons plusieurs variétés de tubercules et de céréales que nous pouvons transformer véritablement. Et pourquoi pas exporter? Parce que l'Ukraine peut avoir besoin de farine de maïs.
Pourquoi pas?
Des farines de manioc, des farines de bananes. Parce qu'à ma connaissance, ils ne produisent pas de bananes.
Non.
Voilà. Donc, ça peut être plutôt
bénéfique,
une occasion pour faire des échanges, un véritable échange commercial.
Est-ce que Drogba a demandé à la FIFA, mais ils n'ont pas jamais voulu le laisser travailler.
Merci, monsieur Yafin Kone. C'est vrai qu'on pourrait, à l'envi, aborder ce sujet-là, quand on sait encore que, bien évidemment, quelques matières premières, comme le maïs et l'engrais, viennent même de l'Ukraine encore. Mais bon, merci, monsieur, d'être passé chez nous.
Merci.
Et puis, en tout cas, vous serez le bienvenu, si vous souhaitez, évidemment, revenir.
On prendra plaisir à le recevoir.
Oui, bien sûr, évidemment. Lynn Beugré, merci d'avoir été là ce matin. Monsieur,
la fleur de Sassandra.
Quelle fleur.
Monsieur le
bon père Baoulé, il faut dire que nous, au PDC, on est d'accord pour que le pain soit national et inculqué et pour que 2025 soit favorable pour le petit déjeuner.
On sera en face de vous.
Tous les matins.
Monsieur Armel Mendy, merci d'avoir été là.
Heureusement qu'en 2025, bien, ça va pas.
Ma victoire, c'est déjà de la boulangerie ici.
Portez-vous bien, les amis. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous. On se retrouve demain à partir de 6h. D'ici là, Dieu vous bénisse. Salut.
Amen.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?